La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. On le sait, les médias connaissent une grande mutation. Sous la pression d'une révolution technologique majeure, ils connaissent une transformation profonde. Il y a quelques années encore, rien n'était plus naturel que d'être abonné à un journal ou de l'acheter. On se levait le matin, on allait le cueillir à la porte ou encore on l'achetait au coin de la rue. Il en est de moins en moins ainsi. On croit que l'information est gratuite et plusieurs s'indignent lorsqu'on leur demande de payer pour l'information qu'ils consomment. Quel est l'avenir des médias dans ce contexte? Mais nous parlerons aussi d'une question plus particulière aujourd'hui, celle du journalisme d'idées, qui ne se contente pas de survoler l'actualité ou de rapporter le plus sobrement possible les faits, mais qui essaie de mettre en scène notre époque à travers les grandes tendances qui la traversent et les grandes querelles qui la structurent. Pour parler de tout cela, je reçois Antoine Robitaille et José Boileau. Antoine Robitaille est éditorialiste au Devoir et responsable depuis plusieurs années de la page idée de ce quotidien. José Boileau a occupé les mêmes fonctions, éditorialiste au Devoir, journaliste au Devoir, plusieurs fonctions dans ce journal, et a aussi assumé la responsabilité des pages idées et vient tout juste de publier « Lettre à une jeune journaliste ». Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, première question que je vous lance, celui d'entre vous qui voudra répondre, le premier se jette sur le micro, comme on dit. Alors, la question plus large, en fait. La presse est passée en format numérique, il n'y en reste plus qu'une édition hebdomadaire le samedi, version papier. L'actualité est à vendre, le devoir est fragile, dit-on. Est-ce que le système médiatique québécois est au seuil, sinon d'un effondrement, tout au moins d'une crise majeure? Est-ce que le système à travers lequel nous vivons nos débats publics, ce à quoi servent les médias, est-ce que nous sommes dans une crise majeure ou est-ce que cette crise est exagérée par le récit de à travers lequel on la présente?
Il y a changement, c'est qu'il faut faire attention au mot crise. Le mot crise signifie que au fond tout s'effondre. En fait, on voit une mutation. Moi, ça m'a beaucoup frappé depuis que ça fait quelques jours à peine que j'ai publié Lettre à une jeune journaliste, mais déjà j'ai des jeunes journalistes qui m'écrivent et qui me font état qu'ils ne sont pas dans des médias traditionnels et pourtant ils travaillent. Et je pense que nous qui sommes formés aux médias traditionnels, qui consommons beaucoup de ces médias-là, il y a peut-être un aspect de cette réalité-là qui nous échappe. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements qui viennent nous toucher parce que ce sont quand même, il y a beaucoup de médias de niche ou qui commencent à avoir un certain public qui viennent au fond bousculer des médias qui ont déjà un grand public. Et c'est peut-être cette disparition-là du grand public qui nous affecte le plus, je pense, dans les temps actuels et qui n'est pas propre au Québec.
Donc, une forme de spécialisation des médias qui retrouvent presque autrefois on appelait les médias de parti, c'est-à-dire les journaux de parti qui rejoignaient une clientèle en particulier.
En tout cas, de niche, certainement. Oui, il y a peut-être quelque chose de ça. Mais cette crise-là, au fond, du grand public, on en a souvent parlé, Antoine et moi, parce qu'au Devoir, quand on travaillait ensemble, c'est le genre de discussion qu'on avait beaucoup. Ça vient toucher la crise de la démocratie. Au fond, ce sont les institutions démocratiques qui sont en train de changer. Je ne pense pas qu'il y aura un effondrement, mais on est encore en train de s'habituer à vers quel changement on va, vers quel genre de mutation et comment on va arriver à continuer de faire sens commun avec ces changements-là.
Antoine Robitaille, votre jugement sur votre analyse de la situation?
Ce que je ressens, c'est un éclatement. Un éclatement à cause des nouveaux médias, à cause de Facebook et compagnie, que moi-même je consulte beaucoup là, je suis souvent là-dessus, donc je veux pas m'exclure de ces phénomènes-là, mais je sens que ça travaille au corps le sentiment national, donc le fait que on forme une même nation. Je vais retrouver tout à l'heure la citation de Tocqueville là-dessus que Daniel Jacques m'avait servi lorsque m'avait sorti quand j'avais fait un article sur qui s'intitulait Fin des journaux, fin des nations. Et j'avais été stupéfait par ce phénomène-là au fond les nations, il y a un lien entre les nations puis la création de l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, oui, et son développement là, c'est pas parfaitement coïncident dans l'histoire, mais c'est ce qu'on vit actuellement. Et au fond, il y a une bonne partie de nos revenus à nous, les journaux et les médias de masse, de l'ère de l'imprimé, qui s'en vont vers ceux qu'on appelle les GAFA, là, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et moi, je trouve qu'il y a une grande tristesse à ça. Et souvent, je dirais que ce qui aggrave la crise, même je l'emploierais le mot crise, ce qui aggrave la crise, c'est que plusieurs personnes prennent des analyses américaines sur la disparition des journaux et l'applique et plaque ça sur notre réalité. Or, c'est pas, on vit pas exactement le même type de transformation, de crise, parce qu'on n'avait pas le même type de conditions médiatiques.
Quelle était la spécificité québécoise, c'est-à-dire des médias nationaux alors qu'il n'y en a pas là-bas?
Je pense qu'aux États-Unis, la spécificité des journaux américains, c'était que l'expression syndicated, aux États-Unis, c'est-à-dire que t'as un journal, t'as à peu près le même contenu national ou panaméricain, puis international, puis t'as les pages locales. Et ça, c'était un peu la paresse Moi, il y a quelqu'un que j'avais interviewé chez Politico qui m'avait expliqué ça, qui était un ancien de USA Today. C'est un peu la paresse de notre industrie, d'avoir justement une page locale. Puis, et donc ça, c'était la caractéristique des journaux américains, en tout cas de ceux qui sont rapidement disparus, parce que les gens y étaient pas attachés. Ici, je pense qu'on a des journaux auxquels les gens sont très attachés. Et c'est vraiment des journaux à la fois locaux et nationaux, parce qu'on est une petite nation aussi. Mm-hmm. Le Devoir est souvent on dit un journal montréalais, mais attention, on est bien distribué un peu partout, puis on réussit à fédérer bien des gens qui se parlent de l'Outaouais jusqu'en Gaspésie. Là. C'est pas un journal américain, peut-être c'est un journal nord-américain, mais c'est pas un journal américain au sens des États-Unis.
Oui, bien sûr.
Moi, je pense que au Québec, on a eu, à cause de notre histoire, cette petite nation francophone en terre d'Amérique, donc a eu besoin d'avoir des lieux de rassemblement. Quand Radio-Canada est créé, on va beaucoup le dire, Radio-Canada va beaucoup amener, être accolé à la Révolution tranquille. Le système Télémétropole qui deviendra TVA, qui, ira vers Québécois, va nous créer un vedettariat local qui va faire en sorte que on se distingue dans notre consommation de certains produits culturels au sens très, très large, mais ça inclut là-dedans le produit médiatique. Donc, va amener un attachement des gens à nos lieux de rassemblement qui font que on se reconnaît là-dedans. Moi, je pense que ça, c'est encore existant. C'est pour ça que j'emploie
plutôt
le terme.
C'est encore existant?
Oui, mais il faut avoir conscience que, parce que il y a toutes ces analyses qu'on plaque, et ça, Antoine a tout à fait raison de dire qu'il faut faire attention. Il y a aussi tous ces preneurs de parole très branchés qui, eux, veulent plus être dans le lieu de rassemblement, c'est bien leur affaire, mais il reste que la moitié du Québec, le dimanche soir, est encore devant sa télé, se sépare entre la voix, puis tout le monde en parle. Puis on est pas mal nombreux au Québec, le mardi soir, à écouter Unité 9. Bon, c'est des produits de consommation, on n'est pas dans l'information, mais il reste que ce sont des lieux qui font en sorte qu'on est tous en train de faire la même affaire en même temps. Il y avait des chiffres ce matin qui montraient la consommation de la télévision. Ben, c'est bien de valeur, mais Netflix, oui, il y a une gang qui aime ça, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui écoutent encore leur télévision en direct.
Le commun des mortels habite encore mentalement au Québec.
Exactement. Et c'est vrai aussi pour les produits d'information grand public. Il y a, je dis, une mutation parce qu'il y a des nouveaux créneaux qui se créent et il y a des jeunes journalistes qui trouvent là des bouchées et des jeunes, je pense beaucoup de jeunes, mais peut-être des plus vieux aussi, en tout cas, un nouveau public qui aime consommer ces nouveaux produits d'information. J'aime pas le mot consommer, mais en tout cas, les lire, les remarquer, les regarder. Mais qu'est-ce qui fait encore débat dans l'espace public? Ce sont encore quand même des nouvelles qui sortent dans les grands médias traditionnels. Et il faut pas ça le sous-estimer ou dire « Ah, c'est ringard, puis ça va finir par être dépassé », parce que là, je trouve qu'on appelle à la mort un peu vite. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a des produits de niche qui se développent. Et est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Je sais pas. La grande diffusion de l'information, nous en profitons tous. Quand moi, j'ai des frustrations, je le dis dans mon livre, quand j'ai des frustrations, et je parle pas ici en tant que journaliste qui cherche un emploi au Québec, mais simplement quelqu'un qui aime l'information. Bon, ben, excusez-moi, mais moi, les journaux britanniques, dans l'ancien temps, j'allais pas les lire. Puis New York Times, je l'achetais de temps en temps. Je l'achetais pas tous les jours. La même chose pour les journaux français. Mais là, tous les matins, je peux aller lire The Guardian, je peux aller lire Le Monde, voilà. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il faut voir ce côté-là aussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans les diagnostics très noirs que l'on peut poser. Ou au contraire, très enthousiaste, qui dirait, ben, nous sommes tous maintenant dans un univers globalisé. Les appartenances n'ont plus d'importance. Ça aussi, je fais attention.
Les jeunes publicitaires aussi plaquent sur notre condition des analyses américaines ou je dirais...
En cela, comment bien des choses d'ailleurs.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, ils postulent que la publicité papier fonctionne pas. Et ils sont tous là dans les grandes boîtes à décider finalement où on va acheter de la pub, acheter de la publicité, où ils vont proposer de la publicité à leurs clients. Or, ils ont décidé eux que ça fonctionnait pas la publicité papier. Ça fonctionne encore.
Oui,
je suis pas en train de dire que, mais je pense que l'avenir va être beaucoup plus diversifié sur ce plan-là que ce qu'on avait pu prévoir.
Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai été rédactrice en chef longtemps au Devoir, donc à la direction. Et effectivement, on avait toujours à un moment donné des moments de brainstorming, de tempête d'idées où il y avait des gens de l'extérieur qui venaient. Puis il y a toujours ces gens du monde de la publicité, du monde du marketing qui effectivement plaque des modèles, n'essaie pas de comprendre le produit réel qu'ils ont devant eux, mais plaque des modèles et effectivement appelle à des changements radicaux. Mais le grand public, il est pas nécessairement là où eux pensent qu'ils sont. Et c'est des gens qui fonctionnent beaucoup avec leur gang.
Bien sûr, un petit milieu autoréférentiel sous-oxygéné.
Et donc, mais n'écoute pas ce qu'il en est de la réalité du terrain. Et effectivement, au niveau de la publicité, c'est tragique parce que ça fait en sorte qu'ils ont beaucoup d'influence. Donc il y a de la publicité qui se perd puis qui s'en va vers le web. Mais la publicité sur le web ne marche pas nécessairement non plus. On est beaucoup dans les projections sans trop savoir où on s'en va. Parce qu'il y a personne qui sait où on s'en va, alors que le grand public, parfois, lui force un peu trop vite la main.
Il y a une institution, parce que vous avez tous les deux, vous êtes au Devoir, vous avez été au Devoir, il y a une institution au Devoir qui s'appelle la page ID.
Oui.
Alors, j'aimerais simplement vous entendre un peu sur cette question qui me semble fascinante. La page ID, d'aussi loin que je me souvienne, c'était la page où se tenait, ou se tiennent peut-être encore, à tout le moins bien des égards, les débats du milieu intellectuel québécois. C'est-à-dire, quand le milieu intellectuel veut débattre d'une question, qu'on le veuille ou non, il y a d'autres journaux, il y a des revues, il y a des colloques, mais en dernier instance, c'est dans la page ID du Devoir que ce débat est mené officiellement. Je pense à des débats comme Penser la nation québécoise en 1999, où une série d'intellectuels avait été invités pour dire où on en était dans nos représentations de la nation, puis il y a eu plusieurs débats au fil du temps. Est-ce qu'une institution comme la page ID conserve une même capacité à structurer un débat public aujourd'hui, ou cet éclatement de l'espace démocratique dont vous parlez fait en sorte que sa capacité à structurer nos débats chez nos intellectuels, chez les figures principalement reconnues, est-ce que ça s'est effrité? Est-ce que ça s'est décomposé?
Mathieu, avant d'arriver à aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose très, très importante à dire par rapport à la page ID du Devoir. Moi, j'ai supervisé la page ID. Antoine a pris la relève. Ce que j'ai constaté, c'est probablement la page la plus lue du journal.
Les gens commencent même par ça.
Mais c'est vraiment frappant parce qu'il faut savoir, parce que dans le milieu journalistique lui-même et au sein même du Devoir, les journalistes ne mesurent pas ça. Moi, ça, je l'ai dit un nombre incalculable de fois. Et à un moment donné, la presse a voulu aller beaucoup sur le terrain des idées. On savait même qu'ils rémunéraient ou demandaient l'exclusivité des auteurs. Et finalement, ça me désespérait. C'était à l'époque où je m'occupais de la page D. Mais finalement, ces auteurs-là finissaient par revenir au Devoir, où on ne les rémunérait pas, parce qu'ils se rendaient compte, eux, ce qu'ils voulaient, c'est d'amener une pierre dans le débat public. Et ce débat public-là, ils le retrouvaient quand ils mettaient quelque chose dans le Devoir, c'était beaucoup plus discuté que quand c'était dans d'autres publications. Alors donc, je pense que il y a en soi cette page-là depuis extrêmement longtemps. Elle reste, et je crois qu'elle est encore, une page vraiment importante dans l'espace Le Devoir. Maintenant, sur la structuration du débat, je vais laisser Antoine, parce qu'Antoine, tu es maintenant, depuis quelques années, en charge de la...
Depuis quatre ans. Ouais.
Alors, mais je vous pose la question. Donc, l'évolution de la page ID, son rôle, en fait, dans le débat public, parce que, pour ce que j'en comprends, tout le moins, c'est toujours ainsi que je l'ai vu, c'est, il y a ce désir qu'il y ait un endroit où le débat se situe à un autre niveau, où le débat n'est pas simplement chronique, opinion, querelle du jour et tout ça, où on accepte que le format en tant que tel conditionne un débat un peu plus élevé, qui serait peut-être même d'inspiration française, se dirait-on de temps en temps. Alors, est-ce que la page D a évolué en tant que telle? Conserve-t-elle son statut? Quel est son rôle dans l'organisation du débat public?
C'est encore le premier choix de bien des auteurs, qui disent, je vous l'envoie, là, je vous envoie le texte, dites-le-moi si vous le prenez pas, parce que ensuite j'irai voir ailleurs. Donc ça, on se fait dire ça régulièrement, on se fait dire ça tous les jours. Donc c'est encore le premier choix, mais je crois que c'est plus difficile qu'avant, à l'époque où on était la boîte aux lettres des intellectuels,
oui, bien sûr,
dans les années 60-70, et on n'est plus la boîte aux lettres universelle qu'on était avant. Malheureusement. Et je crois qu'il y a des débats qui se font ailleurs. Et aujourd'hui, de plus en plus...
À cause des réseaux sociaux,
oui,
tu dirais?
Oui. Les gens sont de plus en plus dans leur niche. Il y a un éclatement. On parle souvent de l'éclatement du mouvement national.
Oui, bien sûr.
Et puis des partis de souverainistes de gauche. Ben, il y a un éclatement aussi des publications intellectuelles. C'est incroyable. Il y en a. Ils s'en créent constamment. Moi, j'ai voulu, quand je suis arrivé en poste, parce que je connaissais bien le monde des revues pour en avoir fondé une avec mes amis, Argument. J'ai voulu ouvrir un espace.
Ouais,
le
ouais,
mardi
ouais.
matin, c'est les idées en revue. Puis José m'a appuyé, puis je la remercie encore. Parce
on
que,
aura l'occasion de revenir là-dessus d'ailleurs, plus en détail, parce que c'est une question fondamentale.
Parce que je voyais l'éclatement, je me suis dit, justement, le devoir doit fédérer ceux qui pensent au Québec, dans le fond. Hein? On devrait avoir, je sais que c'est difficile, peut-être prétentieux de le dire, mais il faut avoir cette utopie-là en tête quand on fait le devoir. Il faut fédérer tout ce qui pense. Puis cette page-là, ben c'est la page où on doit le faire par excellence, le plus possible. Alors, les idées en revue, moi, je suis très content. Ça roule bien. On parle de revues qui souvent n'ont pas la diffusion qu'elles méritent, hein, que ce soit Liberté, L'Inconvénient, toutes ces revues-là.
Vous
très permettrez bonnes.
D'ajouter l'Action nationale.
L'Action nationale, évidemment. Écoutez, on en publie Relations. Toutes ces revues-là, ces bonnes revues québécoises, ben moi je trouve que c'est bon qu'on leur donne un petit appartement là dans la page ID, et peut-être que ça limite c'est juste cette petite chronique-là. J'ai voulu lutter contre l'éclatement de
ce que je me demande, Mathieu. Peut-être que vous faites référence aussi peut-être à des idées, des séries, des réflexions qui émaneraient comme du devoir lui-même. Moi, ça, j'en ai fait. Moi, quand j'étais responsable, c'était donc au milieu des années 2000, j'ai fait ce genre d'aller chercher ouais, des oui. gens expressément sur des questions. Ou encore, il y avait des débats et à ce moment-là, c'était possible dans les pages du devoir, une fois par mois, dégager deux pages. On appelait ça l'agora, quand on recevait beaucoup, beaucoup de textes sur un même sujet. Je me rappelle oui. notamment le mariage gay. Je n'ai jamais reçu autant de courriers. Mais c'est sûr que... moi, je serais portée un peu à penser que là, on arrive dans la vitesse maintenant de production. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens au devoir. Quelqu'un comme Antoine et tous ses éditorialistes doit être sur les réseaux sociaux, la tâche est un peu alourdie ou c'est se décline de toutes sortes de manières. Je ne sais pas alourdie parce qu'en même temps, on est bien là-dedans, mais ça fait en sorte que d'avoir en plus du temps pour aller chercher des gens pour, sur des débats précis.
Solliciter des contributions.
Ça, et d'autant qu'on n'a pas besoin
parce que les textes arrivent.
Par dizaines à chaque jour.
Ouais.
Et ça, à cet égard-là, donc déjà, juste faire le choix, ça prend du
mais
temps.
Bien sûr.
Alors donc, d'aller en plus animer par soi-même un débat où on inviterait des gens spécifiquement à venir, ça serait l'idéal.
C'est vrai qu'on devrait faire bientôt une autre série du type Penser la nation québécoise, qui a quand même été marquante, cette série de Michel Venn qui avait lancé ça.
Qui avait marqué profondément le débat public.
C'est quoi,
pour le meilleur et pour le pire.
À chaque jour, oui, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Oui,
c'est ça, oui, on a fait, à un moment donné, moi j'avais fait des séries d'été sur les nouveaux rituels, par exemple.
Oui.
Donc,
oui.
d'avoir vraiment un rendez-vous, puis à un moment donné, ben ça se perd parce que t'es dans... Tu sais, il faut y croire profondément. Et peut-être qu'on va arriver à ce point-là de la discussion, mais l'intérêt pour les idées dans le mainstream journalistique, et au-delà des revues de niche, Antoine et moi, c'est aussi quelque chose dont on a souvent parlé, c'est pas très fréquent, parce que vous avez peut-être devant vous les deux les plus maniaques dans le mainstream journalistique en termes d'amour de la vie intellectuelle.
Mais ce n'est pas pour rien que vous êtes invités les deux ensemble. Mais non, ce que vous dites est fondamental. Cela dit, on aura l'occasion d'y revenir surtout en deuxième partie de l'émission, parce que moi, ce qui me frappe, c'est une question qui m'obsède un peu, c'est quand un livre sort, par exemple, en France. Bon, alors il y a toute une série, bon, dans la plupart des publications, il y a déjà des pages qui sont réservées à penser la vie intellectuelle, pour la mise en scène de la vie intellectuelle. Chaque journal, chaque revue a son créneau, ses tendances, ses préférences, mais il y a cette idée qu'il y a un espace propre à la vie intellectuelle. Or, je ne suis pas certain que la société québécoise, en fait, j'ai l'impression que quelquefois que la société québécoise a délégué cette tâche au devoir, c'est-à-dire vous êtes responsable de ces débats-là, et pour le reste, je me souviens au moment du rapport Bouchard-Taylor, la commission Bouchard-Taylor, une éditorialiste de la presse qui avait dit « Si M. Bouchard pense qu'on va prendre le temps de lire ses livres avant de commenter son propos, on n'a pas le temps de lire ça, nous. » Donc, espèce de mépris pour les livres d'une personne qui était quand même assez, dans les circonstances, assez importante. Donc, il y a cette question du débat, de la mise en scène du débat intellectuel. Vous avez évoqué la question des revues qui est absolument fondamentale. Est-ce que dans la société québécoise, on a cette espèce, il y a plusieurs revues, chacune dans son créneau et tout ça. Est-ce que ces revues sont simplement des lieux de repli de la vie intellectuelle? Les considérez-vous comme tels? Ou ce sont des laboratoires d'idées qui inévitablement parviendront à percer le débat public d'une manière ou de l'autre?
C'est compliqué votre question. Mais c'est parce que moi, je les vois comme un laboratoire qui vient énormément me nourrir parce que je ne circule pas dans les cercles intellectuels. Donc, j'ai besoin d'avoir cet apport qui est facile, une espèce de main tendue qui est facile à prendre. Mais je me dis qu'il faut aussi le voir du côté des intellectuels eux-mêmes. Eux, ils les vivent comment, ces revues-là? Et je me dis, il y en a combien de gens qui sont plus grand public comme moi qui cherchent cette espèce d'étincelle qui va venir peu les provoquer, les faire réfléchir par rapport aux intellectuels qui écrivent dans ces revues-là, qui peut-être se disent « Mon Dieu, c'est le seul espace qu'il me reste ». C'est pour ça que je la trouve troublante, votre question.
Mais parce que j'ai l'impression, mais Antoine Robitaille, vous me corrigerez, pendant longtemps, certains créneaux d'idées, pour différentes raisons, avaient plus ou moins accès à l'espace public. Donc, la revue était le seul espace possible pour ces gens, en différents formats. Les médias sociaux donnent aujourd'hui à n'importe quel courant d'idées la possibilité à tout le moins de se faire valoir d'une manière ou de l'autre. Est-ce que néanmoins, un journal comme Le Devoir, par exemple, mais on pourrait dire ça d'autres quotidiens dans le monde, viennent consacrer à travers, la rubrique sur les idées en revue et tout ça, est-ce que ça consacre pas l'importance de ces revues-là comme autre chose que justement une base de repli pour intellectuels qui veulent néanmoins témoigner dans les marges de la cité? Est-ce que ça ne contribue pas aussi d'une certaine manière à mettre de l'avant des débats qui sinon seraient périphériques, seraient laissés pour la consommation des quelques-uns?
Oui, puis mettre en avant aussi des signatures, des nouvelles signatures. Il y a une volonté dans cet espace-là de trouver des nouvelles signatures, de découvrir, de voir ces gens-là se développer intellectuellement, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les revues souvent. Mais c'est ça. Donc, c'était quoi la question?
Ben, en fait, c'est le rapport aux revues à la vie de l'esprit, c'est-à-dire comme on a souvent l'impression, José Boileau l'évoquait tantôt, que dans certains médias, en général, il y a une forme de fermeture à la vie de l'esprit, la vie des idées. On dit, bon, en gros,
ça, c'est terrible.
En gros, Dieu nous en garde.
Moi, ça a été difficile comme journaliste. J'ai été 10 ans, puis j'étais étiqueté journaliste un peu intello.
Hein, oui, oui.
Et qui aime beaucoup les idées. Et j'ai fait des efforts pour m'enlever cette étiquette-là parce qu'elle était dommageable à ma carrière.
Et pourtant, je vous invite pour cette raison aujourd'hui. Comme si l'étiquette vous collait encore.
Non, mais c'est vrai. Non, j'arrivais pas à percer une sorte de méfiance de la part des rédactions parce que ils avaient eu souvent des intellos qui refusaient de faire certains sujets ou qui étaient hautains par rapport à des sujets quotidiens. Ça a peut-être existé, ça a peut-être donné une mauvaise presse aux intellos, mais en même temps, je pense qu'on devrait accueillir beaucoup davantage. Moi, je pense qu'au Devoir, ça fait longtemps, j'en ai parlé avec José très souvent, il devrait y avoir un journaliste affecté aux idées. C'est-à-dire qu'il va dans tous les colloques, un vadrouilleur de colloques, comme j'ai souvent dit. Il y a des vadrouilleuses et des vadrouilleurs de théâtre, de tous les lieux de la vie culturelle, que ce soit la danse et tout ça. Il faudrait avoir un journaliste qui travaille exclusivement à trouver des nouvelles, mais en idées, dans le monde des idées. En tout cas, moi, je le repropose. Je sais pas si les gens du Devoir écoutent ici de la direction.
Il faut absolument...
Ça prendrait ça au Québec.
Mais moi, je trouve qu'il y a deux aspects. Parce que quand vous dites la question du repli par rapport aux revues,
oui, le repli.
Ce que j'avais en tête, au fond, c'est un peu ce qu'Antoine soulève, c'est que le repli, ce qui m'inquiète, c'est qu'eux puissent le percevoir comme ça, parce que c'est tellement dur dans les grands médias maintenant, quand on est intellectuel, qu'on nous donne une voix. Et ça, c'est pour ça que je me dis, si tout le monde voyait les revues comme un milieu de découverte, un milieu de réflexion plus avancé, etc., ce serait formidable. Mais si ça n'a pas de rebond dans les autres médias, on ne profite pas de ce qui nous est offert, ce vivier qui nous est offert. C'est pour ça que je crains le repli. Et en même temps, les grands médias, il me semble, de plus en plus se détournent de cet univers intellectuel-là.
Comment l'expliquez-vous?
Peut-être parce que ce qu'on cherche à embaucher maintenant, c'est des petits vites. Peut-être que l'idée d'avoir quelqu'un qui serait un vite lent, mettons, c'est peut-être compliqué. Moi, je reste fascinée. J'aime beaucoup, beaucoup, moi, l'univers des colloques et des congrès. Antoine aussi. Vraiment, on est assez jumeaux journalistiquement. Et souvent, Antoine, bon, quand je suis devenue patronne, que lui est devenu éditorialiste, ben là, il y avait comme plus personne pour aller découvrir. Et puis là, Antoine me disait, oui, mais il y a tel congrès, faut que tu trouves quelqu'un. Sauf que les journalistes, même au devoir, ça ne les intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, la formation journalistique, c'est de chercher de la nouvelle. Mais parfois, quand t'es dans le colloque, il n'y a pas de nouvelle que tu peux résumer en une phrase. C'est plutôt une découverte un peu plus compliquée. Moi, je juste un exemple.
Ça soulève la question de la formation.
Ou peut-être la formation ou le pattern journalistique. J'ai animé au début du mois de juillet des ateliers grand public dans le cadre du Congrès international des sociologues de langue française. Bonheur, j'étais dans un colloque, alors évidemment, j'étais arrivée très tôt le matin, mon affaire était à 5h le soir, et je passais ma journée dans le colloque à me promener d'un atelier à l'autre, mais je tripais comme un enfant, je découvrais des affaires, je trouvais ça fascinant.
Moi, j'ai couvert l'ACFAS, un souk incroyable
oui,
mais, à nouvelles.
Mais en plus,
j'ai
c'est
tellement
que,
eu de plaisir
mais
à
plus,
faire l'ACFAS.
Tu découvres des gens, c'est que tu découvres des gens mais très oui. intéressants, puis tu dis, mais pourquoi lui, je l'ai jamais entendu?
On toutes sortes d'angles d'approche sur le réel, mais oui.
Pas. Alors moi, ça,
Mais ça, c'est le problème de la formation aussi. C'est vrai. C'est comme les profs qui sont juste formés en pédagogie.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Les journalistes sont juste. Ce qui les passionne, ce qui les branche souvent, c'est les débats sur le journalisme. Or, il y a juste.
Ouais. Non, mais ils ont souvent des passions, les journalistes, en même temps. Mais c'est comme s'ils se rendaient pas compte que quand on couvre un événement intellectuel, parce qu'il y en a quand même qui ont des intérêts, que on cherche pas de la nouvelle, mais là faut être assez convaincu parce qu'il y a pas juste ton intérêt à toi, faut que tu convainques ton patron
ouais.
ça a l'air pas accessible ou ça a l'air quelle sera la nouvelle, mais oui il y a quelque chose à raconter, il y a des histoires à raconter plutôt qu'une nouvelle à aller chercher
ouais.
et c'est comme un double combat, c'est que faut convaincre le journaliste puis après ça faut convaincre le patron.
Mais dans les journaux il y a des intellectuels honteux. Des intellectuels honteux, c'est des gens qui s'intéressent à la vie intellectuelle, mais qui détestent l'étiquette intellectuelle.
Ah oui.
Moi, au devoir, il y en avait un patron à un moment donné qui m'avait dit « Oui, fais ce sujet-là, mais il faut pas que ça fasse trop devoir. »
Ah d'accord, au devoir en plus?
Oui, oui, oui. Donc, il faut pas que ça fasse trop devoir, on était au devoir. Et lui, il disait donc, il faut pas que ça fasse trop prise de tête, il faut pas que ça soit trop intello, faut pas que... Donc, et moi, j'appelle ça les intellectuels honteux. Ils connaissent plein de choses, ils aiment ça, mais ils veulent pas que ça soit trop, disons, à la française ou...
Ah ben, nous reviendrons sur cette question tout juste après la pause, dans quelques instants, pour la place de la vie des idées et à la française en partie.
Vous écoutez Radio VM.
Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées. Ici Mathieu Bock-Côté, je reçois aujourd'hui Antoine Robitaille et José Boileau pour une discussion portant à la fois sur l'avenir des médias et plus particulièrement sur l'avenir du journalisme d'idées, appelons ça comme ça, au Québec mais peut-être ailleurs. Je dis peut-être ailleurs parce qu'on a toujours un point de comparaison quand on s'intéresse à la vie des idées, c'est un peu la France. Quand on regarde en France, bon, on sait au Québec, l'actualité qui est notre seul magazine pourrait bien disparaître d'ici quelques mois. Quand on regarde la France, regardons le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles, Le Point, L'Express, Le Nouvel Observateur. Il y a, puis on pourrait ajouter Causeur à tout ça, il y a dans chaque magazine une place réservée d'une manière ou de l'autre aux livres, à la vie des idées, aux querelles entre les intellectuels, aux grands débats qui touchent d'une manière ou de l'autre notre société. Il se Bon, évidemment, il y a une spécificité française là-dedans, c'est-à-dire la France accorde à la vie intellectuelle une importance majeure qu'on n'a jamais à laquelle on n'a jamais reconnu de semblable manière ici. Mais comment expliquez-vous, et vous me corrigerez si je me trompe, mais l'absence à peu près complète d'un espace de réception, de diffusion des idées, des livres, des essais, des conflits intellectuels qui leur seraient spécifiquement consacrés dans notre espace médiatique? Comment expliquer? Je peux comprendre que le Québec soit pas la France, qu'on n'a pas le même marché, qu'on n'a pas les mêmes institutions.
On n'a pas la même histoire. On a quand même l'anti-intellectualisme du Québec qui est quand même...
Ça joue un rôle là encore.
Mais je trouve complètement... Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions d'éducation, comme vous deux. Et c'est toujours frappant. On parle, bon, la persévérance scolaire. Bon, déjà, l'obligation de fréquenter l'école est récente dans l'histoire du Québec. Mais le modèle de réussite du Québec, ne l'oublions jamais, il s'appelle Céline Dion du côté féminin et Guy Laliberté du côté masculin, de spectaculaires décrocheurs du secondaire. Alors, c'est ça. Il faut avoir quand même conscience qu'on part de là. Alors, donc, arriver à convaincre que déjà, moi, j'ai fait des focus group dans toutes sortes de milieux où j'ai eu à travailler. On m'invitait toujours à observer des focus group, ce qui me rendait folle. Parce que quand on mettait des gens scolarisés, c'est qu'ils avaient un diplôme très scolarisé. Ça partait avec un diplôme du collégial, alors que moi, dans ma tête, très scolarisé, on est comme niveau maîtrise-doctorat.
Bien sûr.
Alors, évidemment, du monde maîtrise-doctorat, il n'y en avait même pas dans ces focus group-là. Fait qu'à partir de là, on voit bien que si on est impressionné par un diplôme du collégial, alors imaginez-vous s'il s'agit de débattre de la vie des idées, comment on peut trouver en France, parce qu'en France, vous avez parlé quand même de publications grand public,
ouais,
on pourrait parler de philosophie, de sciences humaines, qui sont des revues absolument formidables et très accessibles pour un peu qu'on sache lire. Et voyez ce que je viens de dire, pour un peu qu'on sache lire, on a la moitié de la population qui est analphabète fonctionnelle au Québec. Alors voyez le marché déjà qui est pas grand. Ben, il est très, très rétréci quand on veut parler de vie intellectuelle.
Il y a, je conçois parfaitement qu'on soit très critique envers les Québécois, je le suis aussi. Vous me permettrez d'être critique un instant aussi envers certaines infrastructures culturelles, appelons ça comme ça. Il y a eu, ça fait longtemps, ça n'existe plus, on a remplacé ça par des chansons, mais il y avait autrefois quelque chose qui s'appelait la chaîne culturelle de Radio-Canada.
Oui, oui.
Qui jouait un rôle dans la mise en scène de la vie intellectuelle, adaptée à notre société. Antoine Robitaille, d'ailleurs, argument déjà consacré quelques dossiers un dossier en particulier à la question
à Radio-Canada
sur la question d'une chaîne culturelle. Est-ce que l'absence d'une chaîne culturelle est un manque dans l'organisation de la vie des idées? Est-ce qu'elle jouait le rôle d'un amplificateur de débat, de créateur de débat, ou d'une certaine manière son absence n'a pas eu trop d'effet?
C'était assez confidentiel, hein? La chaîne culturelle de Radio-Canada, oui, oui. Moi, je l'aimais beaucoup. Moi, j'écoutais et plusieurs de mes amis, mais ça avait pas un effet aussi grand que peut l'avoir, disons, France Culture en France.
Donc, on dit pourtant qu'elle est confidentielle quand on parle aux Français, souvent.
C'est vrai.
Ça, c'est sauf l'émission de Finkielkraut, par exemple, on nous dit à France Culture, vous savez, c'est confidentiel. Mais confidentiel avec de tels moyens, ça a quand même l'effet, la capacité de former l'esprit collectif d'une certaine manière.
C'est sûr que les chiffres en France sont toujours décuplés par rapport au Québec.
Il faut voir aussi les effets de rebond. Moi, j'avais un collègue au devoir, je ne le nommerai pas, c'est une conversation privée, mais qui me disait, mais j'existe moi aussi comme public, j'en veux moi de ça. Pourquoi j'y aurais pas droit? Je paye mes taxes comme tout le monde. Pourquoi Radio-Canada ne me garde-t-elle pas un créneau, moi et les gens comme moi qui aiment avoir certaines exigences intellectuelles? Ouais. Et je trouve que ça fait partie d'un mandat qui a été complètement abandonné. Et
pas
ça,
complètement. Il y a aujourd'hui l'histoire à Radio-Canada une émission intéressante.
Ce sont les 30
bonnes minutes. J'espère que ça va faire tache d'huile.
Oui, mais
je pense que dans d'autres domaines, on pourrait faire aujourd'hui la philosophie, aujourd'hui la littérature.
Mais encore là, on est dans l'histoire.
Pas juste des magazines, parce qu'il y a une magazination.
Oui, je vois très bien.
Ce que je trouve, c'est dans aujourd'hui l'histoire que j'aime beaucoup, moi aussi.
Animé par Jacques Beauchamp, Radio-Canada.
Tout à fait, qui est très intéressant. Mais reste qu'on est dans l'histoire, on n'est pas dans le débat contemporain.
Ouais,
et ça, d'avoir des débats contemporains sérieux, où on fait autre chose que rigoler, qu'aller vers l'anecdote, qu'aller vers, finalement, qu'on en arrive à des confidences personnelles, c'est très difficile à trouver. Sur les ondes privées, on oublie ça. Sur les ondes publiques, à Radio-Canada, c'est, pour ainsi dire, inexistant. Il y a des émissions comme Michel Desautels qui anime très bien le débat le dimanche matin, mais bon, c'est devenu inexistant. Et à Télé-Québec, ce n'est pas là. Et je voudrais souligner que ça a déjà été là encore tout récemment, puisqu'encore là, Antoine et moi,
mais oui.
Bon, en même temps, on a travaillé.
Moi, je suis toujours José.
À Amazon.tv.
On a travaillé à une émission qui s'appelle Chasseur d'idées.
Oui, oui, c'est vrai. Mon
Chasseur
Dieu,
d'idées.
Oui.
Alors, c'était, moi, j'étais recherchiste.
Ah, je m'en souviens, oui.
Antoine aussi. Mais c'était un bonheur. Vous avez à préparer une émission d'une heure sur le capitalisme et son évolution avec des gens qui sont des spécialistes de ça. Et le mandat, c'est d'essayer de trouver des gens qu'on voit pas partout. J'ai fait une émission sur Hannah Arendt. J'ai fait une émission sur l'anarchie.
Moi, sur l'américanité du Québec.
Mais c'était le fun!
Oui,
c'était
oui, incroyable,
cette émission. Sauf que Télé-Québec, qui n'y croyait pas, alors ils étaient pris, on va raconter la vraie histoire, ils étaient prêts à occuper quelqu'un qui avait une permanence. Alors, il fallait bien qu'ils lui donnent quelque chose à s'occuper, mais ils avaient mis l'émission pour être sûr qu'il n'y a pas de public le dimanche après-midi à 2h avec la reprise à minuit soir. Alors, les codes d'écoute étaient de 15 000. C'était ridicule, mais on faisait tout pour tuer cette émission-là. Alors, moi, je trouve que on s'aide pas. C'est pas vrai que les gens s'intéressent pas à ces questions-là. Je vais prendre un exemple encore plus lointain. André Pratt, qui, avant d'être cet homme fédéraliste sur qui on tapait assez injustement souvent, je trouve, parce que c'est un monsieur articulé, André Pratt, à un moment donné, dans sa vie de journaliste, avait décidé de faire une chronique sur les thèses universitaires.
Oui, bien sûr.
Mais c'était fascinant. C'était lu, c'était apprécié et il nous faisait des
recherches universitaires.
Toutes sortes de nouvelles personnes. Toutes sortes
de la nouvelle dans les thèses
en
de maîtrise
plus,
puis de thèses
plus.
Mais il y en avait il y
et,
en a
et donc ça veut dire que quand il y a une volonté mais il faut que ça, mais le problème c'est qu'il faut avoir des gens qui y croient et c'est là peut-être qu'au niveau des directions des grands médias peut-être qu'on n'y croit pas beaucoup et puis quand en plus il y a pas beaucoup de journalistes pour pousser ça ou parce qu'on leur donne autre chose à faire ben ça explique peut-être qu'on sent un tandem un peu isolé.
Oui. Antoine Robitaille faisait remarquer tantôt la question de la formation des journalistes. Vous me permettrez à chacun ses tics. J'en ai un, c'est de citer Raymond Aron dès que j'en ai l'occasion. Oui. Dans ses mémoires...
Je cherche encore ma citation de Tocqueville de tout à l'heure.
On la mettra sur le site web ensuite. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, avec la référence Amazon. Quoi qu'il en soit, Aron disait, se désolait, puis on est quand même dans les années 70, 80, début 80, de la formation des journalistes en disant la tentation de l'école de journalisme, c'est... donc, il donne l'illusion d'une professionnalisation du métier, alors que la véritable formation devrait être en histoire, en politologie, oui. En sociologie, on peut faire une longue liste en économie, en histoire, faites la longue liste possible.
Science.
Est-ce que... Oui, aussi, évidemment. Est-ce que c'est une critique qui porte encore aujourd'hui, qui demeure légitime quand on pense à la formation des journalistes, à leur capacité à mettre en scène des débats, ou parce qu'ils ont une responsabilité immense, encore une fois, je le redis, c'est de mettre en scène le débat public, ou c'est une critique qui vise pas très juste?
Mais, c'est parce que dans la vraie vie, quand on va voir les CV des journalistes, ils ont ces formations-là.
Ah,
ils
oui?
n'ont pas que la formation en communication ou en journalisme. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de voir peut-être que la critique... C'est peut-être sur la façon dont on doit pratiquer le métier plus que la formation. Parce que des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait droit,
il y en a,
sont présents quand même, qui ont fait économie, qui ont fait littérature. Vous en trouvez beaucoup. Et pas seulement au devoir. Souvent, ils ont même fait plusieurs formations. Alors, c'est pour ça que moi, je suis un peu prudente face à ça. Et surtout que...
Mais ça confirme ce que Raymond Aron disait.
Si, c'est peut-être la façon...
Si tu dis que, justement, c'est ce qui arrive dans la réalité, c'est bon que ça soit ainsi, qu'il y ait une formation multiple, qui n'est pas qu'une formation en journalisme.
Oui, ben c'est... moi, je suis très sensible à ça parce que
des journalistes plus éveillés, plus...
Oui, c'est vrai, mais en même temps, puisqu'on a des critiques envers le métier, puis qu'on a de la difficulté à trouver des gens qui vont se passionner pour les colloques et les congrès, et qui, malgré tout, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont une formation autre que communication, journalisme. Alors, il faut croire qu'il y a quelque chose d'autre qui fait en sorte qu'on voit pas le côté attrayant d'aller chercher des informations dans des lieux où il y a pas, où c'est pas, peut-être parce que c'est pas formaté. Tu sais, c'est pas une conférence de presse.
Oui,
c'est pas de l'enquête. Puis c'est pas une conférence de presse où tu sais tout de suite ça va être quoi, en gros, la nouvelle du jour, puis tu vas travailler ça. Mais là, faut que tu sois un petit peu plus à l'affût. Mais pas à l'affût de façon chaudruelle enquête.
Oui,
vous voyez?
Bien sûr.
Alors, j'ai pas fini de me questionner là-dessus, puis c'est d'autant plus compliqué de me questionner que moi, je trouve ça intéressant, ces affaires-là.
Oui. Mais Antoine Robitaille, vous allez dire?
Ben, Là, peut-être que tu pensais à une couverture de type ACFAS, hein, dans un colloque ou dans un... mais il y a aussi la vie intellectuelle dont Mathieu parle depuis tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'elle n'est pas couverte parce qu'il y a des... Et chez nous, c'est un peu comme aux États-Unis, ça devient des affaires de campus. Hein,
débats intellectuels... La vie intellectuelle américaine est avalée par les campus.
Se replie sur les campus.
Et la vie intellectuelle au Québec est repliée sur l'université. Sur quelques séjours peut-être, mais cette idée d'une vie intellectuelle qui déborde et qui peut... En fait, la vertu de la vie intellectuelle, lorsqu'elle apparaît dans les médias, c'est qu'elle donne un peu de relief à l'actualité, elle donne une profondeur à l'actualité. Mm-hmm. Or, j'ai souvent l'impression, mais peut-être parce que je suis trop injuste, que ce sauf exception, cette profondeur, elle est généralement absente. Ou si elle n'est pas absente, à tout le moins, elle est même indésirée quelquefois. Comme si, d'une certaine manière, il y avait...
ça a changé. Il y a des chroniqueurs, même au Journal de Montréal, qui parlent beaucoup d'idées.
Ah ben ça,
qui sont la cible de bien des intellectuels parce que, justement, ils brassent ces mêmes idées-là et peut-être que ça fait remonter un peu le débat à la surface.
Vous devinez que je m'abstenais de parler du journal pour lequel je travaille, là.
Non, mais c'est...
C'est une forme de politesse élémentaire envers mon employeur.
Je sais, mais...
Mais en fait, je vous répondrais, cela dit, si je peux pendant un instant porter un autre chapeau. La chose que... parce que José Boileau disait tantôt, il y a un anti-intellectualisme au Québec qui est très forte. L'expérience paradoxale que j'ai fait, c'est parce que j'ai pas vraiment, quand j'écrivais dans Le Devoir, comme dans la page D où j'écris aujourd'hui, j'ai pas vraiment changé ni de style, ni... En fait, j'ai plus de place puisque j'ai un blog aussi, donc et je constate qu'il y a un intérêt chez le lecteur. Donc oui, un anti-intellectualisme québécois, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, la figure de l'honnête homme existe encore, qui est à la recherche de quelque chose d'autre que ce qu'offre le paysage médiatique. Et moi, avec mes petits pouvoirs.
Mais c'est ça, moi je trouve vous en êtes la preuve, Mathieu. Oui, c'est vrai, vous faites du journalisme d'idées, vous faites de la chronique, vous faites du journalisme d'idées. Donc, et vous êtes une figure maintenant là qui est pas confidentielle. Là.
Bon.
Mais c'est vrai.
Mais je dirais au-delà de ma modeste personne, c'est bien la seule fois que j'utiliserai ce mot ici pour me qualifier. mais je crois qu'il y a au-delà donc de cela, il y a une demande qui ne trouve pas son offre.
Oui, mais c'est peut-être un peu quand on a commencé au tout début. Vous savez, quand on a parlé de la publicité au tout début de cet entretien. Mmh. Donc, il y a comme des gens qui sont les décideurs de qu'est-ce que le monde peut bien avoir, de quoi les gens peuvent bien avoir envie. Et c'est vrai, au fond, peut-être pour l'espace qu'on décide de garder, c'est que, prenons comme chasseur d'idées, même si c'était finalement le dimanche après-midi, ça avait son public.
Ouais.
Et ça, il faut accepter que c'est pas toujours l'immense grand public, parce que si on cherche l'immense...
Comme contact de Stéphane Bureau, un temps.
Oui, c'est ça. Donc, si on cherche l'immense grand public, là, on revient à l'intellectualisme du Québec qui fait que ça devient compliqué d'aller chercher beaucoup de monde. Mais il y a une partie de la population qui est parfois, qui est pas nécessairement dans les endroits où on pense. Moi, je me rappelle d'avoir été, par exemple, et je prends cette anecdote personnelle-là parce qu'elle m'avait beaucoup fait sourire. J'étais allée simplement acheter une paire de chaussures dans un magasin de chaussures et la vendeuse était une grande lectrice du Devoir. Alors, vous voyez, elle n'était pas prof, elle était pas, parce qu'on est toujours en train de dire le cliché. Bon, et c'est sûrement la même chose pour vous au Journal de Montréal. Il y a probablement des gens qui sont dans des milieux où, a priori, on ne pourrait pas penser qu'on aime lire du Mathieu Bock-Côté.
Oui, hier à la pharmacie, j'ai dédicacé 3 de mes ouvrages.
Bon, ben, vous voyez. Alors, donc, il y a un public qui est pas un très large public, mais à qui on a très, très peu d'écoute.
Mais c'est vrai qu'on cherche toujours le large public aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais été assez sidérée.
Sauf dans les niches. Et là,
Mais il y a un entre-deux, probablement, entre La Voix, disons ça comme ça, et Ricochet, pour parler d'une revue pour laquelle j'ai pas une affection exagérée. Mais il y a un entre-deux.
Vous êtes attaqué régulièrement.
Bon, je ne suis pas le seul. Ça vous est probablement arrivé aussi. Mais il me semble que cet entre-deux, cette idée que c'est la figure de l'honnête homme. José Boileau me pardonnera cette formule, mais la figure de l'honnête homme demeure celle de...
Parce que la femme est honnête aussi, là, attention.
Évidemment. Mais vous évoquiez tantôt, au tout début, la question du rapport à la démocratie. Vous disiez, les grands médias permettent de constituer un espace démocratique où, au-delà, chacun dans sa niche, on a un espace démocratique. La figure de l'honnête homme, c'est la figure démocratique par excellence. Il peut avoir n'importe quel job, n'importe quel emploi, mais il se passionne ou s'intéresse aux choses de la cité. Or, j'ai l'impression que la figure de l'honnête homme n'est plus nécessairement celle pour qui le commun des journalistes ou des chroniqueurs écrivent. C'est-à-dire cette idée que voilà un citoyen qui, au-delà de ses activités quotidiennes, s'intéresse aussi à la cité. Et ce préjugé favorable envers l'honnête homme, est-ce que, d'après vous, il existe encore dans le système médiatique?
Moi, je le prends encore plus large que ça. Oui. C'est que je trouve que on a des institutions politiques où on a de la difficulté à se reconnaître face à ces politiciens qui devraient nous représenter. Il y a une coupure, une césure, les gens vont moins voter. Il y a une méfiance envers les institutions dans tout genre, que ça va de l'Église jusqu'au mouvement syndical. Donc, à travers ça, les institutions médiatiques sont aussi affectées. Donc, l'honnête homme, il a peut-être l'impression que les institutions ne se préoccupent plus de lui, ou peut-être que c'est lui qui est rendu moins honnête.
Moi, je comprends, c'est une
blague là, que je fais. Mais c'est comme s'il y avait une coupure entre ce que nous sommes comme individus et les façons collectives de nous représenter de toutes les façons. Ce que les médias vivent ne peut pas être détaché des tourments que traverse le monde politique, des tourments que traversent les institutions qui ne savent plus comment faire en sorte de pérenniser les choses. Je vais prendre un exemple. Le printemps 2012, moi, je l'ai trouvé formidable, pas en termes de sa violence. Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé de la violence, mais au départ, il y avait autre chose et il y a eu des manifestations très créatives. Mais il n'en est rien resté. Il est resté chez certains jeunes une envie de s'engager, mais ce ne sont pas des engagements qui ont pris un sens pérenne.
Oui, bien sûr.
Donc, ils se promènent d'une cause à l'autre et pourtant, ils veulent quelque chose. Mais cette difficulté-là de s'arrimer à des institutions qui durent, c'est ça que je trouve qui est compliqué. Donc, ça fait en sorte que comme il y a moins le sentiment d'appartenance, si je reviens à votre question de départ, donc si on est une direction médiatique, à qui on s'adresse, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est très mouvant.
Oui. Donc, il n'y a plus un lecteur type qu'on a en tête, c'est-à-dire...
Pourtant, on nous bassine avec l'idée de citoyenneté constamment. Oui. Puis le citoyen, c'est même devenu un adjectif un peu insupportable. C'est curieux, que ce serait curieux de penser que l'honnête homme est disparu. Hein? Mais en même temps, au même moment où on nous bassine avec la citoyenneté, où tout le monde se dit citoyen, où on veut que les autos soient citoyennes, que tout soit citoyen, il y a un éclatement considérable et il y a un manque de références communes. Mmh. Et les références communes, de plus en plus...
Un langage partagé, des références partagées.
Paul Saint-Pierre Plamondon, l'autre jour, lors d'un débat du Parti québécois, il y a eu cette observation très intéressante. Il a dit, comment on peut faire nation, comment on peut faire société quand tout le monde a comme... référence commune, Game of Thrones.
Oui, bien sûr.
Oui. Hein?
Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était une sortie sur la culture. C'était un segment sur la culture. Puis, c'est vrai que moi, c'est ce que je sens de plus en plus, c'est qu'il y a un décrochage. Autour de moi, je rencontre des gens qui sont vraiment dans leur niche.
Puis, ils n'habitent plus mentalement le Québec.
Ils n'habitent plus mentalement le Québec. Ils habitent un territoire sur Facebook avec leurs amis qui ont les mêmes passions qu'eux. Ils regardent plus la télé parce qu'il y a eu la critique de la télé pendant tant d'années. Et ils regardent des séries.
Ouais, bien sûr.
Les séries télévisées en rafale et ils les regardent. C'est toujours des séries américaines.
Hein? Toujours.
Désintéresse de et donc moi je pense que.
Mais c'est que
c'est
genre...
à ce citoyen-là qu'on a du mal à s'adresser. Et de plus en plus, et ils sont de plus en plus nombreux. Je dis, c'est vrai.
Ils
comme
sont
José
de plus
le disait,
en plus bruyants, je dirais. Moi, je dirais qu'ils prennent beaucoup la parole, ces gens-là. Mais je trouve
ils se
pas...
désaffilient.
Ils se désaffilient et ils le disent et ils s'en vantent. Mais je trouve qu'ils sont pas si nombreux. Et c'est cette coupure-là entre ces gens qui parlent, qui sont les leaders d'opinion, et puis le reste du monde au Québec qui sont... Moi, je le vis beaucoup.
Quand le téléjournal attire plus que, 400 000 téléspectateurs, alors qu'avant, il attirait quoi?
On pourrait tellement faire des débats là-dessus, parce que le téléjournal, rapidement, j'écoute beaucoup la radio de Radio-Canada. Bon, ben quand j'arrive le soir au téléjournal et que je vois au téléjournal le topo que j'ai entendu à l'heure du monde, qui est formidable, l'heure du monde à 6h, à la radio de Radio-Canada, je trouve pas ça intéressant d'écouter téléjournal, je vais écouter TVA. Parce que là, j'ai la répétition, alors qu'avant, il y avait quand même, on voyait pas la même chose, on n'entendait pas la même chose au bulletin de nouvelles radio qu'au bulletin de nouvelles télé. Mais moi, ce que je veux dire, j'ai une maison à la campagne. En même temps, Antoine, tu ne restes pas à Montréal, tu demeures à Québec. Donc, tu as une vue aussi de l'autre grand pôle du Québec. Mais quand je suis en région et j'écoute certaines émissions, télé ou radio, ouais, j'ai l'impression, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils se parlent entre eux? Et ce qui me fera beaucoup moins quand je suis à Montréal. Mais quand j'en suis loin, puis que je regarde le mode de vie des gens autour de moi, je me dis, bon, mais là, il y a un décalage, il y a quelque chose qui marche pas au Québec. Il y a une petite gang qui est en train de penser qu'elle s'adresse à l'ensemble du Québec, mais c'est pas vrai. Et ça, je trouve que cette coupure-là, elle m'apparaît très, très frappante.
Antoine Robitaille, vous allez dire? Alors, je me permettrai une question. Nous approchons peu à peu de la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes. Je donne un repère, et vous me corrigerez si je me trompe. Lorsque Lise Bissonnette écrivait ses éditoriaux en des temps anciens, en des temps reculés, j'ai fait le calcul récemment pour le plaisir, ça pouvait avoir 1000 mots, 1200 mots, 1300 mots. Dans le Figaro Magazine, magazine que j'affectionne particulièrement, quand il est fondé par Powells, les éditos ont environ 1400 mots, 1500 mots. Puis un jour, les éditos de Powells ont eu 350 mots, 400 mots, puis un jour, bon, ils ont rétabli ça autour de 700, c'est bien. Dans Le Devoir, vous me corrigerez, mais la place disponible pour l'édito a régressé considérablement, pas seulement là d'ailleurs, un peu partout dans tous les pays occidentaux. De même, la place réservée aux chroniques. Comment expliquez-vous cette exigence de faire de plus en plus court? Est-ce que la capacité, qu'on le veut ou non, en cela comme en d'autres choses, la taille compte? Est-ce que on présuppose que la capacité d'attention, de concentration du lecteur a tombé à un point tel qu'il n'est plus possible de lui écrire au-delà d'un certain temps, ça doit se lire en 3 minutes et c'est terminé?
Moi, je dirais que ce sont des décisions qui sont prises par des directions qui estiment que c'est ça que le public veut. En même temps, au devoir, il y avait une certaine souplesse que je pense qu'il y a encore. Il y a parfois, on pouvait faire un éditorial plus long, plus court. Moi, je trouve plus intéressant de pouvoir faire plus long. C'est beaucoup plus difficile de faire plus court. Mais c'est vrai que... C'est parce que là, on rentre dans un moment donné, il y a quelqu'un qui décide. Alors, il peut y avoir des dissensions. Oui,
je comprends, mais juste petit bout là-dessus, vous dites que quelqu'un décide, mais puisque à peu près quelqu'un a décidé la même chose un peu partout en Occident,
ouais,
dans les grands journaux,
c'est que les gens ont moins de temps aussi.
Manifestement, il y a...
Ouais, mais moi je pense que non, mais c'est parce qu'il y a toujours un côté, l'autre le fait, alors on devrait donc faire pareil. Il y a des modes, hein. Puis c'est, tu sais, le milieu médiatique, il n'échappe pas à ça. Alors voyez, depuis l'apparition de la tablette de la presse, par exemple, le côté tout peut se résumer en des bonnes vignettes, puis des petits clips, c'est devenu parce que la presse a décidé qu'elle faisait ça. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont prêts à lire des longs textes, des longues analyses. Le milieu anglophone le fait voir encore. Moi, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Et là, à un moment donné, il y a comme une formule. Alors, au devoir, la chronique a été décidée qu'elle avait telle longueur. Puis à un moment donné, il faut que tu respectes ce qu'on appelle les maquettes, les cartes à
pied. Si on pense que les gens ont moins d'attention, ont moins de capacité d'attention qu'à une certaine époque, effectivement, j'ai l'impression.
Parce que j'ai l'impression que c'est une variable assez fondamentale dans tout cela, ne serait-ce que parce qu'à l'école, on exige de moins en moins de temps de lecture, parce que les écrans ont complètement détruit la capacité de lecture de plusieurs. Il n'en demeure pas moins que quand je regarde ça, puis je sais qu'il faut pas dire que c'était mieux avant, parce qu'on sait que c'est jamais mieux avant, mais la taille.
C'est vrai
accordée,
que parfois, quand on lit des anciens éditoriaux, on passe à travers des marais, là. Je trouve qu'il y a des éditoriaux, moi, que j'ai des anciens que j'ai lus, que je trouvais qu'il allait pas assez rapidement t'es pas super bien écrit non plus. Selon mes critères d'aujourd'hui,
mais moi, je trouve qu'il faudrait avoir de la souplesse. Alors, c'est parce que là, on fixe des formats en pensant que les gens peuvent pas lire plus longtemps. Moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a selon des sujets qui demandent du développement. Est-ce que on cible les éditoriaux, les chroniques, mais on pourrait largement parler du magazine. Alors, voir les premières années de l'actualité, la longueur des reportages, les belles années de Chatelain par rapport à aujourd'hui. Bon, l'actualité a renoué avec le grand reportage, mais c'est pas vrai. Mais c'est parce que là, on a toujours, vous savez, tous ces analystes de marketing qui viennent dire, on revient à la pédagogie à l'école, là. Mais c'est ça que le monde veut. Mais attends, peut-être que les gens, ils veulent toutes sortes de choses. Ils veulent de la souplesse, les gens. Puis
ils veulent des bons
textes.
Quand on leur offre des bons textes, moi, je depuis une dizaine d'années, je supervise le devoir de philo.
J'ai collaboré à plusieurs reprises.
Oui, c'est ça, exactement. Et ce sont des longs textes. textes et c'est des textes qui sont très lus le samedi. Donc, dans un journal comme Le Devoir, surtout comme Le Devoir, il doit avoir des petits textes, des grands, il doit avoir toutes sortes de tailles de textes. Et je pense qu'il y a des textes de réflexion qui sont très grands, encore très longs, encore aujourd'hui, même si on les compare aux époques antérieures.
Et moi, je voudrais insister sur le fait que du côté des médias anglophones, on est beaucoup moins frileux à cet égard-là. Alors, je prends l'exemple du Globe and Mail. À tous les samedis, vous avez 4 pleines pages d'une histoire qui se suit.
Ouais.
Il y a des essais qui sont des pages entières sur toutes sortes de sujets avec de la réflexion. Alors, les anglophones sont capables de le faire. Je trouve qu'au Québec, à cet égard-là, on se laisse beaucoup enfermer dans, en fait, faut tout le monde faire pareil parce que c'est ça qui est à la mode puis c'est ça que les gens veulent. Moi, peut-être que ça, c'est le problème de notre petit marché où tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu, donc en se jaugeant les uns les autres.
Il nous reste à peine 1 minute 30, peut-être même 1 minute, quelque chose comme ça. Question sur le mode de l'espérance. Est-ce qu'il y aurait de la place au Québec pour, appelons ça l'équivalent, disons ça comme ça, du Point ou de l'Express ou de la, donc vous comparez que je crois que ça n'y a pas d'équivalent en ce moment là-dessus, même si l'actualité fait du bon travail. Est-ce qu'il y aurait de la place, un marché pour un magazine qui déciderait de monter le niveau délibérément, consciemment, d'une manière ou de l'autre?
En tout cas, l'actualité n'était pas devenue un hebdomadaire à l'époque, il y a maintenant plusieurs années, parce qu'il n'y avait pas le marché. Et c'est à l'époque où Jean Paris le dirigeait, qui était quand même un entrepreneur médiatique assez redoutable. Un homme de culture aussi, mais qui était capable de prendre des décisions d'affaires et il avait estimé qu'il n'y avait pas cette classe-là, notamment contrairement à la France, ici, les éditions du samedi des quotidiens
jouent ce rôle-là.
Oui, très important. Mais peut-être qu'il y a je sais pas. Enfin, on sent qu'il manque quelque chose.
Il y a de la place, en tout cas, pour des médias qui sont plus exigeants. Et j'espère que Le Devoir va le demeurer.
Nous y collaborons tous d'une manière ou de l'autre. Nous travaillons tous à cela. Chers amis, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui à Radio-VM, à La Vie des Idées.
Plaisir.
Antoine Robitaille, José Boileau, merci beaucoup.
Merci.
Et chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Vie des Idées. Merci.